Donc, je vais vous présenter rapidement le projet Canopé. Je vais vous présenter en gros la démarche un petit peu générale et puis des résultats préliminaires. On est à peu près en milieu de projet, mais on a pris du retard avec le Covid l'an dernier. Donc, le projet Canopé, c'est un projet avec pas mal d'acteurs impliqués, des acteurs académiques, les quatre grosses structures qui travaillent en entomologie en laboratoire académique en région centre. On a des partenaires associatifs, on a des bureaux d'études, on a le Muséum d'Orléans et l'ONF qui participent au projet. Alors, le projet Canopée, il se place dans un contexte général qui est celui des dépérissements forestiers. Donc, les dépérissements forestiers, c'est une dégradation qui est générale et graduelle de l'état sanitaire des arbres à différentes échelles. Hein. Ça peut être au niveau de l'arbre individuel, au niveau de la parcelle ou au niveau du massif forestier entier. Et ce dépérissement peut aboutir à la mort des arbres, mais généralement après un certain délai, c'est-à-dire après plusieurs années. C'est une perte de vigueur qui est vraiment progressive. Une autre particularité des dépérissements forestiers, c'est que généralement ils sont multifactoriels, donc ils dépendent de l'effet combiné et successif de différents facteurs. Alors, on les liste en général en facteurs prédisposants, qui sont des facteurs liés au sol ou à la gestion, des facteurs déclencheurs, qui sont soit des facteurs liés à des pullulations d'insectes, soit des facteurs climatiques et notamment la sécheresse. Et puis, par-dessus viennent des facteurs aggravants, donc généralement des parasites et des ravageurs de faiblesse qui profitent de l'affaiblissement généralisé pour se développer et entraîner les arbres vers un destin funeste. Alors, les dépérissements forestiers, ce n'est pas un phénomène nouveau, hein. En Europe, on connaît ça depuis des siècles et des siècles. On en a vu régulièrement se développer sur des échelles plus ou moins grandes. Par contre, c'est un phénomène qui est en aggravation actuellement en réponse au changement climatique. Et notamment en Europe, donc les modèles prédisent une augmentation de la fréquence et l'intensité des sécheresses, avec des conséquences qui sont déjà visibles sur les forêts en zone européenne. Donc en résumé, en fait, ce qui va se passer sous nos latitudes, ça va être donc une augmentation de la température, une réduction des précipitations, et donc on va aller vers des sécheresses qui seront plus longues et des sécheresses qui seront plus intenses et plus fréquentes. Donc on va passer d'un climat actuel qui est celui-ci vers un climat futur qui va être celui-ci, où on va nettement plus fréquemment dépasser le seuil de mortalité des arbres. Et les travaux récents montrent que la sécheresse est en train de devenir un phénomène, enfin, une perturbation majeure et fortement impliquée dans la mortalité des arbres en Europe. Là, vous avez une carte qui a été publiée récemment qui vous montre que dans la frange sud de l'Europe, la sécheresse est impliquée dans 20 à 30%, enfin localement, hein, 20 à 30% des mortalités de canopée sur les dernières décennies. Et c'est un phénomène qui est croissant et qui va encore s'accentuer dans le futur. Si on regarde d'ailleurs des chiffres, enfin des données du département de la santé des forêts en centre-Val de Loire, vous voyez que la ligne du haut qui vous présente la sécheresse estivale montre que sur les dernières années, on a connu régulièrement des périodes de sécheresse estivale qui ont eu des répercussions qui sont assez fortes sur les peuplements forestiers. Au niveau national, hein, les données du département de la santé des forêts montrent qu'il y a eu l'an dernier des dépérissements qui étaient marqués sur les résineux, épicéas, sapins, douglas, pins sylvestres, sur le hêtre aussi. Et ça a motivé un travail d'enquête du département de la santé des forêts sur les chênaies en France. Donc, ils ont suivi 57 000 arbres. Donc, c'est un gros travail sur 80, je crois, 80 massifs différents. Les résultats de l'enquête étaient quand même plutôt encourageants, puisque finalement, il n'y avait en gros que 10% des forêts qui présentaient un état sanitaire médiocre, surtout dans un espèce de noyau aux alentours de l'Allier, du Cher et de l'Indre. Mais il faut mettre un bémol à cette enquête, qui est qu'en fait le chêne est une essence à réponse tardive. Et donc c'est connu que le chêne enfin, répond beaucoup plus tardivement à des phénomènes de sécheresse que le hêtre ou les résineux. Et donc, on s'attend à une dégradation de la chênaie dans les années qui viennent en réponse aux successions de sécheresses qu'on a pu avoir. Alors, en termes de biodiversité, la détérioration progressive d'un peuplement forestier, ça va s'accompagner de la disparition, modification de certains habitats et de certaines ressources. notamment une variation qui est classique dans le cadre d'un dépérissement, c'est une altération assez rapide des houppiers des arbres dépérissants. On va avoir une accumulation de branches, de ramifications mortes, donc, ce qui va aboutir à une perte de feuillage, à un probable changement de qualité du feuillage, même si là on n'a pas beaucoup de données qui appuient ça. Et par voie de conséquence, en cascade, une modification des microclimats forestiers, puisqu'on va avoir une couverture forestière qui sera un peu plus lâche, un peu plus mitée, et donc un effet tampon thermique qui, in fine, sera moins bon sous le peuplement, mais même à l'échelle du houppier, on a des microclimats qui peuvent du coup être fortement altérés. En parallèle, ces dépérissements, ça peut aussi s'accompagner de l'apparition, de l'augmentation de certains habitats et de l'apparition ou de l'augmentation de certaines ressources qui sont rares dans des forêts gérées. Donc, par exemple, on peut voir s'accumuler dans des peuplements dépérissants différentes formes de bois mort, des chandelles, du bois mort dans le houppier. On peut voir apparaître des écoulements de sève, des cavités dans les troncs, des champignons opportunistes. Tout ça, ce sont des ressources qui sont généralement rares dans un peuplement sain et bien entretenu, entre guillemets, pour des objectifs de production. Donc finalement, cette détérioration progressive de l'état de santé d'un peuplement, ça peut être potentiellement favorable pour certains organismes, notamment, si on tire des grandes lignes, pour les espèces saprophytiques, toutes les espèces qui sont associées au bois mort ou dépérissant. Finalement, un dépérissement, ça peut être plutôt un facteur positif pour ce type d'espèces-là. Par contre, pour d'autres espèces, par exemple les espèces associées au feuillage, ça peut avoir des impacts plutôt défavorables ou entraîner du moins des effets un peu contrastés en fonction des guildes trophiques associées au feuillage. Alors, ces questionnements-là, ils prennent du sens actuellement, puisque vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Actuellement, on assiste, hein, il y a plusieurs travaux, plusieurs études qui montrent qu'il y a des réductions de populations d'insectes dans plusieurs écosystèmes, en particulier dans les pays industrialisés. Là, vous avez juste un exemple d'étude, qui est un travail qui a été mené en Allemagne sur une trentaine de forêts et 150 prairies qui ont été suivies pendant une dizaine d'années. Et on voit que dans les deux types de milieux, la biomasse des insectes, la richesse spécifique sont des métriques qui diminuent au cours du temps. Donc une réduction des populations d'insectes qui peut s'accompagner d'une altération potentielle des services écosystémiques que ces insectes rendent, qui sont assez variés, hein. Ça peut être de l'avection d'organismes, de la pollinisation, de la régulation d'organismes pathogènes ou ravageurs, décomposition. Et puis les insectes en soi, c'est aussi une ressource trophique, par exemple, pour les oiseaux insectivores, etc. Donc les enjeux ici autour du dépérissement forestier et des communautés d'insectes, c'est d'essayer d'anticiper les changements de communautés fonctionnelles d'insectes suite au dépérissement forestier. Donc essayer de prédire si on s'attend à de fortes modifications. Et puis essayer de voir aussi s'il n'y a pas des enjeux particuliers en termes de conservation de biodiversité, puisqu'on a vu que certaines espèces pouvaient être favorisées. Ça peut être, dans une optique de conservation des milieux, quelque chose d'intéressant, une espèce d'opportunité à saisir pour restaurer des populations d'insectes saprophytiques qui tendent à devenir rares dans les forêts gérées de manière un peu intensive. Donc, du coup, la problématique générale de ce projet Canopée, c'est de déterminer comment un dépérissement peut affecter la biodiversité des insectes dans les canopées de chênes. Alors, on fait un focus particulier dans le projet sur la canopée pour plusieurs raisons, parce que c'est un compartiment forestier qui est relativement mal connu, parce que c'est globalement assez peu échantillonné, c'est assez difficile à échantillonner. C'est un milieu qui possède une faune qui lui est propre, avec environ 20% des espèces forestières qui sont des espèces de canopée. Et même au-delà de ça, c'est aussi un milieu dont beaucoup d'espèces forestières dépendent pour au moins une partie de leur cycle, du moins de ce qu'on en connaît. Et puis enfin, la canopée, c'est, on l'a vu, un milieu qui va subir des modifications profondes et très perceptibles lors des dépérissements. Et donc, du coup, les objectifs associés au projet, ça va être déjà d'une part de caractériser les communautés d'insectes dans la canopée, puisqu'on ne les connaît pas très très bien. L'idée, c'est ici, en fait, simplement d'enrichir les inventaires de biodiversité régionaux en ayant une vision un peu plus complète de la diversité forestière. d'évaluer les relations entre dépérissement et biodiversité des canopées, et puis de quantifier l'impact de l'état sanitaire des peuplements sur les microclimats. Donc ça, c'est les trois objectifs. Il y en a un petit peu plus, mais j'ai résumé un petit peu. Donc le travail, il est mené dans des forêts domaniales régionales. Donc en 2019, on a fait un premier échantillonnage qui était axé sur la domaniale d'Orléans, qui est une domaniale plutôt saine, la domaniale de Vierzon, qui est une domaniale dépérissante depuis longtemps. Donc on avait un gros échantillonnage prévu l'an dernier, mais on n'a pas pu le faire avec le Covid, donc on le décale à cette année. Et cette année, on va élargir donc à quatre domaniales en région centre, Orléans, Boulogne, Vierzon et Châteauroux. On va aussi aller travailler dans le sud, dans l'Allier à Marcenat, et dans le nord à Chantilly, puisque c'est une forêt aussi où les dépérissements deviennent de plus en plus importants et inquiétants. Donc, par rapport aux objectifs de caractérisation de l'entomofaune et d'évaluation des relations entre dépérissement et biodiversité des canopées, pour répondre à ces objectifs, dans chaque forêt, en fait, on va sélectionner des parcelles de chênes plus ou moins dépérissantes. Et dans ces parcelles, on met en place différents systèmes de piégeage dans la canopée, avec des dispositifs de piégeage classiques et puis des dispositifs de piégeage un petit peu innovants, avec des modèles de piège développés assez récemment, notamment ces types de pièges verts ou ces pièges noirs, mais appâtés avec des substances phéromonales particulières. Donc sur la campagne 2019, notre objectif, c'était plutôt le premier en fait. C'était vraiment de faire plutôt une caractérisation de l'entomofaune des canopées. Donc on a eu un échantillonnage qui était limité à trois forêts, 21 parcelles, ça représentait une centaine de pièges. Et on a vraiment cherché à maximiser les identifications en ventilant les collectes. Là, vous avez un exemple de collecte, hein, cette espèce de petit pâté, c'est un tas de plusieurs centaines d'insectes. Donc on a essayé de ventiler ces collectes à différents spécialistes de groupe, alors c'est spécialistes de différents ordres ou familles d'insectes, en sélectionnant donc ce qu'on avait de très représentatif dans nos piégeages et en essayant d'avoir vraiment la gamme la plus large possible de spécialistes associés au projet, qu'ils soient académiques ou même issus du monde associatif. Donc sur les collectes de 2019, on a identifié plus de 100 000 spécimens. Alors on n'a pas encore fini, c'est encore en cours. On est à plus de 600 espèces d'insectes inventoriées. Je pense que d'ici la fin de l'année, on sera aux alentours de 700. Et en fait, dans ces lots d'insectes, on a donc mis en évidence plusieurs espèces d'intérêt patrimonial. On a détecté des espèces nouvelles au niveau départemental ou régional, et même des espèces rares à l'échelle européenne, donc une chrysope, voire des espèces qu'on n'avait jamais décrites en France continentale, hein, des espèces qui étaient connues vraiment du bassin méditerranéen ou qui avaient été décrites en Corse, et dont on a retrouvé plusieurs spécimens dans la forêt de Chantaud, donc dans la métropole orléanaise en fait. L'objectif ici de caractériser vraiment une très grande diversité d'espèces, pour nous en termes d'analyse après, c'est in fine d'avoir un maximum de diversité en termes de guildes trophiques, guildes d'habitat ou guildes fonctionnelles. Donc, ici vous avez deux exemples avec les charançons qu'on a fait l'an dernier. Là vous avez chacune des espèces représentées et après on va les résumer sous la forme de guildes fonctionnelles. Idem avec les hyménoptères qu'on fait cette année. Donc là, vous avez différentes familles qui sont échantillonnées et on peut résumer ça en termes de différentes guildes fonctionnelles. Après, on va fusionner tout ça pour avoir des effectifs assez importants au niveau de chaque guilde fonctionnelle pour pouvoir les utiliser dans termes d'analyse statistique. Alors, je ne vais pas vous détailler les résultats parce que justement, ils sont en cours d'analyse. Juste quelques petits résultats préliminaires. Si on cherche les liens entre dépérissement et biodiversité, donc on voit qu'il y a des guildes qui répondent de manière significative. Donc par exemple, les cicadelles, qui sont des petits insectes suceurs de sève, fortement associés au feuillage, on voit qu'il y a une réponse qui est négative en termes d'abondance et en termes de richesse spécifique, ce qui correspond plus ou moins à ce qu'on attendait en termes d'hypothèse. Si on prend d'autres groupes, par exemple les raphidioptères ou les mouches serpents, qui sont des prédateurs d'insectes saprophyliques associés au bois mort, là on a une réponse qui est plutôt positive, qui est aussi plutôt ce qu'on attendait en termes d'hypothèse au départ. Donc, on a des réponses qui vont dans le sens des hypothèses, pas de manière systématique, hein, ça va dépendre un petit peu des groupes qu'on a échantillonnés. Si on travaille à une échelle un peu plus large en termes de guildes, on voit que la plupart des guildes répondent de manière significative au dépérissement. C'est ce qu'on voit ici dans les effets dépérissement qui vous sont listés sur les différentes guildes. Et si on récupère en fait l'ensemble de ces espèces pour faire une analyse multivariée, en essayant de voir si les peuplements sains et dépérissants vont être assez distincts en termes de communauté de canopée, on arrive à voir sur le jeu de données partiel qu'on a utilisé pour le moment qu'il y a effectivement des variations hein, entre ces peuplements sains et ces peuplements dépérissants, avec des communautés qui sont significativement différentes. Donc on voit bien des effets contrastés entre guildes, on voit bien qu'il y a des échangements de communautés associés au dépérissement. Après, on n'a pas encore la vision globale sur la biomasse globale des insectes ou la diversité générale des insectes. Ça, on attend encore un petit peu d'avoir terminé notre travail d'identification. Et donc la campagne qu'on va mener cette année, en fait, elle va plutôt chercher à maximiser les forêts et les parcelles pour justement essayer de maximiser au maximum la diversité en termes de niveau de dépérissement de parcelles pour accentuer notre puissance statistique. Donc on va plus vraiment essayer de maximiser les identifications d'insectes, mais on va plutôt essayer d'optimiser les guildes afin d'essayer de détecter les effets les plus significatifs en termes de variation de guildes. C'est ce qu'on attend cette année. Dans le projet Canopée, je voulais juste ouvrir un petit peu sur le fait qu'on ne travaille pas que sur des insectes, hein, on travaille aussi sur d'autres aspects, donc notamment l'aspect de quantification de l'impact de l'état sanitaire des peuplements sur les microclimats. Et donc, dans le cadre du projet, on est amené à développer des outils de suivi et de prédiction de l'état sanitaire des arbres, voire des forêts. C'est par exemple le travail que mène Cécile Vincent Barbaroux de l'Université d'Orléans, en essayant de développer des marqueurs biochimiques de dépérissement des chênes, et aussi en développant des méthodes de télédétection en utilisant des images Sentinel-2, pouvoir faire des cartographies de dépérissement à l'échelle des massifs. Donc elle a initié ce travail dans le cadre de Canopée, et maintenant elle le poursuit dans des cadres un petit peu plus généraux. On a aussi amené donc à faire des travaux sur les microclimats. Donc ça, c'est le travail que mène Sylvain Pincebourde de l'IRBI à l'Université de Tours. Donc dans ce cadre-là, on a été amené à mettre en place des capteurs thermiques à différentes hauteurs de la canopée vers le sol. Donc c'est pareil, hein, les travaux sont en cours, mais sur des petits résultats préliminaires. Vous voyez, ici, vous avez les résultats des capteurs thermiques le 25 juillet 2019, qui étaient le jour le plus chaud durant la vague de chaleur de 2019, avec les températures mesurées donc à différentes hauteurs et jusque dans le sol, dans des contextes plutôt sains, donc c'est plutôt les carrés, ou dépérissants, c'est plutôt les triangles. Donc ce jour-là, au sommet de la canopée, il faisait à peu près 45 à 47 degrés, donc il faisait un petit peu chaud. On voit qu'il y a un effet tampon associé à la canopée, mais que finalement, dès qu'on est dans un contexte dépérissant, même au niveau de la canopée, on a des variations thermiques qui font que, bah, comme la canopée des arbres dépérissants est un petit peu plus, enfin, moins dense et un petit peu plus ventilée, si vous voulez, on a des échauffements déjà de plusieurs degrés à l'échelle de la canopée, et que les répercussions les plus fortes, elles vont se situer au niveau du sol, où là, on va avoir des deltas de température en moyenne de 10 degrés. Alors, 10 degrés, c'est chaud pour nous. Pour un insecte, un arthropode qui ne régule pas sa température, ça peut être toute la différence entre vie et mort. Donc, ça fait des écarts thermiques qui sont colossaux à l'échelle du sol. Donc, ce travail-là, il est continué. Il sera étoffé cette année par des survols de drones avec des caméras thermiques pour caractériser les microclimats foliaires au niveau des canopées. Voilà. Alors, je ne détaille pas plus parce que voilà, les travaux sont en cours et que j'ai un temps qui est limité. Mais donc, en fait, là, pour le moment, on a des résultats préliminaires qui sont plutôt encourageants puisqu'on sait on va effectivement enrichir les inventaires naturalistes régionaux avec des nouvelles données. On sait aussi qu'on va fournir des nouvelles données écologiques sur des groupes peu connus et sur des milieux peu échantillonnés. Donc, par exemple, on voit dans les canopées, on a capturé dans les canopées des insectes qu'on n'était pas, qu'on s'attendait pas spécialement à voir là-dedans. Donc déjà, ça va enrichir les connaissances écologiques générales. Et puis, on a aussi des bêtes qu'on ne s'attendait pas forcément non plus à trouver dans des chênaies. Donc, on a des résultats un petit peu étonnants parfois. En termes de réseau, en fait, le projet, il a bien permis de conforter des collaborations existantes entre laboratoires et d'initier aussi des collaborations avec des partenaires associatifs, naturalistes, plutôt fructueuses qu'on va essayer de maintenir dans le cadre d'autres projets. Et puis le projet, il a permis d'initier de nouvelles approches, de nouvelles techniques, et il a incité aussi au dépôt de nouveaux projets. Donc, par exemple, on a obtenu des petits financements de la FRB pour compléter certaines approches du projet. Ça nous a permis de nous inclure dans un projet Fresco. On a déposé un projet Biodiversal à l'Europe, mais qui n'est pas passé. On a déposé un projet auprès du Studium. On va déposer, enfin, on est en cours de dépôt d'un projet avec l'Institut de France pour travailler sur les dépérissements à Chantilly. Et puis, il y a plusieurs aspects développés dans Canopée qui seront, on va dire, développés dans le cadre de la RD Sycomore, notamment les aspects de cartographie. Et les questions de Canopée sont aussi mises en avant dans le cadre du CPER Vallaud-Pattes. Donc voilà, je reviendrai plus tard pour vous détailler un petit peu plus les résultats quand on aura des choses un petit peu plus abouties et définitives, mais ça vous donne une idée du contenu général du projet. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.